l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bien, bonjour à tous. Encore un petit voyage au niveau de la solidarité internationale. Ça fait voyager pas mal. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir José Forneron, qui est membre, je peux dire, très actif.
On peut dire.
Voilà, on peut dire, du CCFD. Bonjour José,
bonjour, enchanté. Bonjour Claude.
Voilà, et donc j'invite José à nous expliquer un petit peu, à nous rappeler, pour ceux qui le savent, ou à nous expliquer ce qu'ils ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le CCFD ?
Alors, le CCFD, Terre solidaire, puisque depuis quelques années, on a associé ça, ce mot-là. Exactement. Alors, le CCFD, Terre solidaire, s'appelait tout au départ, quand il est né au début des années 60, le CCF, Comité catholique contre la faim. Mmh. C'est un moment, au début des années 60, où les organismes internationaux, notamment la FAO, ont fait prendre conscience que la faim, c'était un problème important au niveau du monde. Et donc, un petit peu ici ou là, se sont créés des mouvements. Et celui-ci, donc, ça a été à l'initiative de l'Église catholique, qui s'appelle le CCFD, Terre solidaire aujourd'hui. Mmh. Et probablement que dans quelques années, il s'appellera tout simplement Terre solidaire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. L'échelon de travail, c'est l'ensemble de la Terre, et ce qui motive, c'est la solidarité.
La solidarité, voilà. Qui est un terme actuellement très fort. Hein,
voilà. Alors, cette solidarité, donc on parlait du monde, si on regarde bien, sachant qu'il y a à peu près 300 pays dans le monde, on intervient dans 60 pays, donc c'est-à-dire un pays sur trois, à peu près.
C'est pas mal, quand même.
Et voilà, il y a des projets qui sont soutenus par le CCFD Terre solidaire, il y en a à peu près 600, donc ça veut dire qu'il y a dans 600 lieux, dans 600 un petit peu partout dans le monde, il y a des projets qui sont nés là-bas et qui sont soutenus financièrement par le CCFD Terre solidaire. Alors peut-être vous dites, mais d'où vient l'argent du CCFD Terre solidaire?
C'est
tout
une bonne question que j'allais poser.
il s'agit finalement de dons que font les gens, et donc ces dons pour lesquels les gens sont sollicités à plusieurs reprises, et peut-être en ce moment vous avez peut-être vu circuler dans le journal que vous lisez, le magazine, une enveloppe pour le CCFD Terre solidaire, et ces sommes sont ensuite redistribuées pour soutenir des projets, mais des projets qui sont nés là-bas, hein, c'est-à-dire on n'arrive pas avec un clé en main en disant on va vous construire ça, non, vous êtes une association, vous êtes un groupe de personnes, un groupe de femmes, vous avez une idée mais pas de sous, et on peut vous aider en vous fournissant de quoi faire, mais on se mêle pas plus, il n'y a pas de salariés qui vont venir donner des ordres, etc. Donc ce système fonctionne assez bien, parce que je pense qu'en termes de pays, on ne peut pas croître tellement plus, en termes de projets c'est déjà pas mal, mais enfin, c'est ça qui est un des éléments forts du CCFD Terre solidaire. Alors, il faut peut-être préciser aussi que ce CCFD Terre solidaire repose sur trois piliers qui permettent de tenir. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle en bon français l'EXI. Alors, c'est éducation citoyenne à la solidarité internationale. C'est ce qu'on appelait par le passé éducation-développement, c'est-à-dire faire tout pour sensibiliser les gens qui nous voient, qui nous écoutent, qui nous regardent, se dire qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce qui se passe dans tel ou tel pays. Donc ça, c'est... et souvent, ça se traduit par des interventions dans des écoles, dans des collèges. Et les petits, les jeunes sont très sensibles à ça, et ils sont bien contents de savoir que, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui sont soutenus par cette action ici. Le deuxième pilier, c'est celui dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, c'est le partenariat, c'est-à-dire que les gens que nous aidons, les associations, c'est pas des employés, c'est des partenaires, c'est-à-dire que on leur donne et ils nous donnent, c'est-à-dire que c'est un échange et on avance à la même hauteur. Il y en a pas un qui est plus fort que l'autre, et ça, moi, ça me paraît important. Alors ce partenariat, il est important parce que donc on disait que il y a 600 projets, donc il y a potentiellement 600 associations partenaires. Et ces partenaires nous rendent visite de temps en temps. Et à cette époque-ci de l'année, en général, on reçoit sur le plan régional, sur le plan local, on reçoit la visite de ce qu'on appelle des partenaires, des gens qui nous apportent quelque chose et à qui, peut-être, on espère, on apporte aussi quelque chose. Mmh. Et la troisième dimension, mais qui est un petit peu associée à ça, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire essayer de convaincre nos dirigeants, nos décideurs, qu'il y a peut-être des choses à faire pour aider ces pays-là, hein, mmh. c'est-à-dire par des politiques, par des politiques politiciennes, mais aussi par des politiques commerciales, ne pas écraser les entreprises en les rachetant, en faisant travailler des gamins dans les mines, etc. Donc ce plaidoyer, c'est quelque chose d'assez récent, mais qui compte et pour lequel on obtient parfois des résultats et qui ont abouti aussi quelquefois des décisions européennes sur justement le fair play un petit peu mm-hmm. des entreprises.
Tout à fait. Et les plaidoyers, donc, ils sont... Vous les faites sous quelle forme ?
Alors, c'est les plaidoyers, ben, c'est tout simplement bon, des gens qui travaillent là-dessus, mais ils interviennent auprès des hommes politiques, des présidents, des assemblées, mm-hmm. partout où des décideurs sont en charge de prendre des décisions et on leur dit, attention, il y a telle ou telle chose. Par exemple, il y a quelques années, ils avaient travaillé pour que soient reconnus les biens mal acquis. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, les dirigeants se servent abondamment et ils ont des domaines, des maisons, des appartements hors de prix et dont leur peuple ne bénéficie absolument pas. Donc il y a eu comme ça, encore récemment, des dirigeants qui se sont vus confisquer leurs biens parce qu'ils étaient, disons, indûment acquis.
Tout à fait. Et donc là, comment vous arrivez à infiltrer ? On va revenir sur le partenariat, hein, parce que vraiment c'est important, mais comment vous arrivez à infiltrer les autorités, les gens qu'il faut convaincre pour les plaidoyer ? Comment ça se fait ? Qui de chez vous va prendre son bâton de pèlerin pour aller ?
Le CCFD, c'est une action, enfin c'est un organisme, une ONG de développement. Hein.
Oui.
Elle n'est pas urgentiste, c'est de développement.
Tout à fait, oui.
Et elle est structurée comme une association. Mmh. Et donc, il y a des commissions, et dans ces commissions, une commission plaidoyer, il y a des gens donc, qui se disent, bon, on va faire telle ou telle chose, et donc, on va voir le député du coin en disant, je ne sais pas moi, à un moment, il a été travaillé sur l'origine des vêtements. Mmh. Donc, peut-être que les maillots, les shorts, etc., venaient d'Asie, et peut-être, il faut aller voir le député en disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire fabriquer les choses ici, etc. Donc c'est un petit peu au cas par cas, mais l'important c'est qu'il y a des commissions et des gens qui sont chargés du plaidoyer et qui interviennent aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau européen.
Donc c'est-à-dire que voilà, c'est un peu dans le cadre d'une réflexion que vous faites tout au long cours, où régulièrement il y a des gens qui se dédient à ça et qui du coup partent...
Oui, voilà, parce que une des actions de plaidoyer les plus récentes, c'est la transparence des entreprises. Mmh. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui s'y passe dans les entreprises. Donc à partir du moment où on demande aux entreprises, vous faites votre travail, mais faites-le en pleine lumière, qu'on voit ce que vous faites. Et après, tandis que là, c'est fait un petit peu en douce, on le voit bien un petit peu pour la crise alimentaire en France aujourd'hui. Il y a des tas de choses qui échappent aux citoyens moyens. Mmh. Et donc, des associations comme la nôtre, et donc elle n'est pas la seule, on travaille souvent en collectif, œuvrent pour que ça se sache.
Mmh. Et quand vous dites que vous œuvrez en collectif, vous œuvrez avec qui aussi ?
Alors, par exemple, on a un collectif auquel on a participé maintenant, on est peut-être un petit peu en repli parce qu'il y a des problèmes de renouvellement des dirigeants. Mmh. Éthique sur l'étiquette.
Ah oui, éthique sur l'étiquette
qui par exemple, a une dizaine d'associations et dont l'objectif est justement de surveiller que l'étiquette qu'on achète dise bien ce que ça veut dire, que on puisse, lorsqu'on veut acheter quelque chose, faire attention. attention, ce qu'on combat beaucoup actuellement, c'est ce qu'on appelle la fast fashion, hein, mm-hmm. c'est-à-dire des fringues qui sont données pour trois fois rien, qui sont jetées au bout de quelque temps. Donc cette espèce de gaspillage dont les gens s'enrichissent au niveau européen ou américain, et que le petit ouvrier de base en Asie ne voit rien passer. Je veux dire, quand on voit le prix d'un jean, la personne qui a fabriqué ça doit recevoir 1 ou 2% de la valeur finale. Enfin, y a quand même un problème.
Alors justement, c'est tout à fait d'actualité, avec une actualité nationale, hein, et peut-être même européenne, c'est la crise des paysans, oui. La crise agricole, où on voit qu'il y a de plus en plus de visites inopinées dans des supermarchés, oui. avec vérification justement des étiquettes, notamment sur le vin. Actuellement, nous ici, dans le Sud, on est sensibilisés par le vin, dans notre région. Et on voit bien là, il y a une discussion aussi. Hier, j'ai assisté à la télé à une discussion autour du prix du lait. Quand on sait combien le lait est payé à un producteur, et quand on voit combien on peut l'acheter, alors voilà. Et donc, pour dire que vous êtes quand même tout à fait dans le vent, dans la résonance.
Et dans ce vent, on entend beaucoup la souveraineté alimentaire, qui est un des gros thèmes du CCFD, c'est-à-dire avoir la main sur ce que... On consomme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit consommer que national, mais savoir un petit peu ce qui est juste pour tout le monde. Pour les consommateurs, qu'ils ne payent pas trop cher, et pour que les producteurs soient justement rémunérés. On n'est pas là pour leur faire l'aumône, mais on est là pour le prix juste.
Le prix juste, exactement. Alors, on va peut-être revenir, merci, parce que je crois que ça éclaire bien les choses, et puis ça remet un peu une couche à cette notion de solidarité, et que chacun s'y retrouve par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Alors on va venir peut-être à l'aspect partenariat, du coup.
Voilà, alors, comme il était...
La question, la question que je voulais poser d'abord, vous parliez tout à l'heure de personnes, quelquefois, qui pouvaient venir de l'étranger, c'est très intéressant, que vous visitez, donc, des pays dans lesquels il y a des projets que vous soutenez,
tout à fait.
Qui sont soutenus. Et comment s'organisent les visites et qui est-ce qui les finance ?
Alors, ça fait partie des, disons, des, c'est dans le budget du CCFD.
D'accord,
donc,
okay.
Il y a je ne sais pas le chiffre exact, mais une quinzaine ou une vingtaine de partenaires qui viennent au printemps, en général au mois de mars, en France. Et certains sont dévolus à des régions. Donc, on va recevoir, à partir du 7 mars, on va recevoir des personnes qui viennent du Brésil et qui vont se promener un peu dans toute la région Languedoc-Roussillon, auquel est associé aussi le Vaucluse. Et donc, ils vont intervenir pour parler de leurs problèmes et pour qu'on voit que leurs problèmes sont aussi nos problèmes.
D'accord. Donc justement, le Brésil. Alors comment les personnes qui sont intéressées, là, qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont intéressées, comment elles vont savoir ? Est-ce qu'il y aura des réunions, des rencontres publiques aussi ?
Voilà. Il va y avoir quelque chose d'assez intéressant le 8 mars.
La journée de la femme.
Voilà. il va y avoir une visioconférence qui sera vue dans une les gens qui interviennent, on ne les voit pas, mais on est dans des salles pour les voir. Hein. Et donc, dans une quinzaine de lieux dans la région, et quatre dans l'Hérault. Et c'est une sorte de dialogue, on peut leur poser des questions, etc. Et donc, ces personnes vont exposer un petit peu ce qu'elles font, et puis répondront aux questions. Et puis, un petit peu plus tard, le 19 mars, il y aura une soirée à la salle Jacques Ier d'Aragon, qui sera un petit peu des alternatives à l'exploitation agricole et à l'agro-industrie, et avec, là aussi, nos associés. Donc, je parlais d'éthique sur l'étiquette, mais ça peut être aussi la CAT, le Secours catholique, etc., etc.
Donc, c'est une rencontre. Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes viennent d'un coin du Brésil qui n'est pas forcément très connu et qui repose grosso modo sur des tonnes de minerais et qui attire bien évidemment... Alors, il y a quelques 30 ou 40 ans, le gouvernement brésilien a... essayer de tracer, de mettre au point une ligne de chemin de fer qui irrigue sur 800 km et qui descend dans la forêt amazonienne. et en essayant de dire on va mettre des aciéries tout autour, et puis les paysans qui sont là, bon, mais de toute façon, c'est des autochtones, ils n'ont pas besoin de nous, etc. Donc cette espèce de prise de pouvoir de la société industrielle ou agro-industrielle, parce que donc il y a des hauts fourneaux qui sont faits, enfin fabriqués pour faire de l'acier, parce que c'est surtout du fer. Hein. Mm-hmm. Cette région se situe pas très loin de, disons, de la Guyane française. Hein. La partie nord. Il y a un port au bout de cette voie de chemin de fer. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que l'association qui nous rend visite s'appelle, en français, Justice sur nos rails. Hein, oh, oui. Parce qu'ils savent que tout au long, il se passe des choses assez extraordinaires. Et avec, donc, l'idée, c'est qu'ils brûlent le bois des forêts, de la forêt amazonienne pour faire chauffer, faire fondre le fer. Comme il n'y en a plus assez, ils ont planté des eucalyptus et des pins, parce que ça pousse mieux, mais en même temps, ça boit toute l'eau. Exactement. Donc les paysans n'ont plus de quoi faire. Et d'autres se disent, bon, mais dégagez, nous on veut planter du soja, parce que l'Europe achète du soja pour son... Alors ils sont dans des situations impossibles, et ils n'ont pas beaucoup de voix au chapitre, parce que souvent ce sont des populations d'origine indienne. Voilà.
Tout à fait, donc ils sont très démunis. Donc, bon, on va continuer, parce que c'est vraiment, ça commence à devenir même croustillant, enfin pas croustillant, mais très chaud. Et peut-être que On va faire une petite pause musicale, d'accord ? On a choisi, vous
alors
avez
on a choisi, tout à fait par hasard, un air du Brésil qui s'appelle Carolina, qui est chanté par Jorge Ben.
Jorge, voilà, donc Carolina.
De domingo, que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito
e eu moro vizinho a ela.
Que eu fico desse jeito
pensando nos beijos, nos carinhos dela.
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina bela. Carolina bela, foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito
e eu moro vizinho a ela.
Eu fico desse jeito
pensando nos beijos, nos carinhos dela.
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina bela.
Et Eh bien, nous voici de retour. Nous avons laissé Caroline en chemin et je suis toujours avec José Forneron du CCFD Terre Solidaire qui nous parlait donc de ce partenariat avec une soixantaine de pays, s'il vous plaît, quand même, et qui nous expliquait qu'actuellement le focus est mis. Enfin, vous allez recevoir donc, José, des personnes qui en provenance du Brésil pour une association.
De l'Amazonie.
De l'Amazonie, exactement.
Voilà, l'Amazonie brésilienne.
Voilà, brésilienne, qui est une région très, très compliquée, et très difficile et souvent difficile à vivre pour les autochtones qui sont des Indiens et qui n'ont pas trop voix au chapitre. Mmh.
Hein, oui, ils sont victimes du viol des droits humains et de la nature. Hein, donc, donc de l'accaparement des terres, parce qu'on leur dit
tout à fait.
Voilà, et on voit que souvent il y a des bûcherons, disons, qui sont illégaux, mm-hmm. et qui débarquent et puis mm-hmm. qui tuent tout le monde pour pouvoir mm-hmm. avoir un peu de
Exactement.
Bois, pour vendre aux aciéries,
etc. En toute impunité.
Et c'est un peu avec la complicité du gouvernement, mm-hmm. ou en tout cas, ils ferment mm-hmm. les yeux. Alors mm-hmm. Ces communautés indiennes, elles ne sont pas très, très, très nombreuses, mais elles ont une vie à mener, elles ont des traditions, des cultures à faire, et donc probablement pas de titre de propriété. Alors même si, je crois, dans la législation brésilienne, ils sont protégés, mm-hmm. on arrive toujours à contourner les protections. Et du coup, c'est un petit peu de ça qu'on voudrait évoquer avec eux. Et surtout, ils se dirigent vers une dimension agroécologique, mmh. hein, c'est-à-dire que, comme on évoquait tout à l'heure, cette solidarité, cette souveraineté alimentaire, ça peut passer par des productions locales, ancestrales, et qui correspondent à la vie de ces Indiens, et où ils ne sont peut-être pas tous Indiens d'ailleurs, mais qu'on ne soit pas aux mains des grandes entreprises multinationales qui disent l'Europe a besoin de soja, on va éjecter tout le monde, on va planter des dizaines et des dizaines d'hectares. Et il faut dire que cette zone a été souvent conquise par je crois que ça s'appelait la colonisation par les bœufs. Ils descendaient avec des bœufs et qui mangeaient tout sur leur passage. Et, voilà, et donc, ils se sont créés des territoires comme ça. Et s'il y avait des Indiens, on les mettait un petit peu de côté. Quoi.
Et puis, ça continue.
Et ça continue. Alors c'est des droits humains à respecter. C'est une information à respecter. Alors, ce qui est intéressant dans ces personnes qui vont nous rendre visite, ils sont deux. Il y en a un qui s'occupe de l'association donc, dont on a dit la justice sur les rails, hein, puisque c'est le long de cette voie de chemin de fer, mais il y a aussi une personne qui bénéficie de ça.
Ah, d'accord.
D'une association bénéficiaire de ce soutien. Mmh. Donc, on n'a pas que. On pourrait se dire, bon, le CCFD vient raconter ce qu'il a envie de raconter. Il se fait... Mais d'avoir le retour et le vécu de ces personnes, et c'est une femme qui va venir. Et on sait qu'un peu partout dans le monde, les droits des femmes sont un peu moins respectés.
Oui, donc voilà. Ça, c'est bien. Oui.
Donc, je crois que ce sera très, très intéressant d'avoir justement ce regard sur la façon dont ils aimeraient être traités. Mais bon. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est à l'autre bout du monde.
Non, on n'en parle pas beaucoup. De temps en temps, il y a des campagnes, effectivement, qui touchent, je crois, quand même les gens. Et puis, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les gens qui revendiquent une agriculture traditionnelle, des productions, des produits locaux, etc., il me semble que c'est quand même un peu dans l'air du temps maintenant aussi, que les gens en ont un peu ras-le-bol de ces grandes exploitations, ces commerces qui inondent le pays, etc. On parlait tout à l'heure aussi de cultures imposées qui gaspillent beaucoup d'eau, alors qu'il y a une façon traditionnelle peut-être d'être plus dans l'écologie, dans la préservation. Quoi.
Parce qu'au départ, quand on a vu qu'il y avait beaucoup de forêts d'eucalyptus, on ne comprenait pas pourquoi.
Oui.
Parce que bon, pour nous, les aciéries, ça fonctionne avec du charbon.
Ben oui.
Mais là, ils n'en ont pas, donc ils font du charbon de bois. Mmh. Et l'eucalyptus est probablement fait pour ça. Donc c'est pas absolument pas une culture originaire du pays, hein, puisque c'est australien au départ. Et donc, quand on se penche là-dessus, ça ouvre des tas d'horizons.
Voilà. C'est sûr. Et puis c'est bien que justement, il y ait cet échange, hein, nord-sud, comme on appelle, enfin, qui est vraiment...
Alors, il y a quand même une chose que je voudrais préciser, c'est que parmi les idées du CCFD, quand on fait un don, c'est un don qui part dans un pot commun. C'est-à-dire que Imaginons que notre discussion ait convaincu des gens en disant je vais donner pour cette région-là.
Peut-être.
Eh bien, c'est pas possible. Mm-hmm. C'est pas possible. Donc, il y a quelquefois des cas quand il y a un événement, un tremblement de terre, on a ce qu'on appelle des dons dédiés. Mais sinon, ça va dans un pot commun. Et c'est la qualité du projet qui fait que des gens nous disent, attention, là, à tel endroit, il y a un projet intéressant qu'on devrait soutenir. Donc, on envoie des experts pour qu'ils voient l'efficacité de cette équipe qui propose ça, et ils sont financés. Donc, ne vous dites pas, je vais donner mon obol pour ces pauvres Indiens de l'Amazonie brésilienne.
Donc, on dira simplement, on donne pour Terre solide.
Voilà,
on est d'avant-garde là.
Et de toute façon,
je pense que votre fonctionnement, il est aussi une garantie quelque part que...
Oui, à
un moment de dire, il y a peut-être des priorités par moment ou des pays qui sont un peu plus des associations, qui sont un peu plus à la pointe ou qui ont un peu plus besoin, et que c'est vous, votre expertise, votre évaluation, en partenariat, comme vous disiez tout à l'heure, avec eux, qui font qu'à un moment, vous allez plus ou moins donner à tel ou tel...
Mais alors, quelquefois, on est un peu surpris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, il y a eu un sommet Afrique-France à Montpellier.
Et on a
à la Maison des Territoires et de la Solidarité Internationale, on a reçu des gens. Et il y avait une association africaine qui nous a parlé de son projet. Et de combien avait-il besoin ? De 2000 euros.
Oui.
Ça paraît insignifiant, mais pour eux, ça solutionnait ces problèmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y ait des centaines de milliers, de millions, de milliards à donner. Quelquefois, c'est un petit projet et à qui on donne un coup de main. Et une des tendances les plus récentes du CCFD aussi, c'est de favoriser un petit peu le microcrédit, notamment auprès des femmes, puisque
les femmes
tiennent un peu les cordons de la bourse. Et quelquefois, avec un petit crédit, elles peuvent faire jardiner, avoir des fruits, des légumes qu'elles peuvent vendre, etc. Et donc, ça fait partie de cette nébuleuse des aides qu'on peut faire. Mais bon, c'est notre souci depuis plus de 60 ans. Et donc,
pourvu que
ça dure longtemps.
Moi, ça me parle bien, tout ça. Et donc, tout ça pour revenir à l'origine, c'est-à-dire que ce que je disais en aparté à José, c'est que je trouve ça extraordinaire qu'il y a déjà 60 ans, il y a cette conception un petit peu d'un partenariat qui n'est pas l'aide, qui n'est pas cette notion judéo-chrétienne de charité, etc., est plutôt un moment... On a des humains en face, il peut y avoir effectivement des échanges qui sont des échanges.
On ne sait pas à qui on donne.
Voilà, exactement. Et donc, je trouve que c'est important. Alors, pour les personnes qui voudraient donner, je pense que c'est important qu'elles sachent qu'à un moment, quand ça va être attribué, ce sera dans un moment, par exemple, comme là, l'histoire de l'association africaine qui avait besoin de 2000 euros. Je veux dire, c'est bien de savoir qu'il peut y avoir à ce moment-là ce tout petit projet qui va faire des merveilles dans son pays, quoi.
Parce que je ne crois pas dire des bêtises, mais le budget du CCFD est de l'ordre de 30 millions d'euros. Vous voyez, donc ça, c'est une grosse truc. 2000 euros, c'est... Bon, je ne veux pas dire que ces 2000 euros ont été satisfaits. Je ne sais pas. J'étais au cours de la discussion. Mais j'avais été frappé par la petite somme que ça représentait. Mais pour ces personnes qui étaient là, ça leur solutionnait un problème. Quelquefois, on a l'impression que si on ne met pas des dizaines de millions à la clé, rien ne se passera.
Voilà. Et justement, c'est bien aussi de savoir, enfin pour moi c'est rassurant, de savoir qu'on évite un peu tous ces concepts où on balance. Enfin moi je pense par exemple à l'UNUSIDA qui a balancé des millions et des millions de dollars sur l'Afrique. Et quand on sait qu'au bout du compte, pour les malades, il n'en est allé moins de 30% de tout cet argent, que ça enrichit plein de gens, y compris des chefs d'État et tout. Donc je veux dire, de savoir qu'il y a cette garantie là, de proximité, de cette notion de partenariat, je trouve que c'est vraiment très rassurant et que ça donne envie de donner.
Non, mais c'est vrai. Et je veux dire que si on ne connaît pas la destination des dons qu'on a fait, le fait pour le grand public de rencontrer ces personnes, de discuter avec eux et d'avoir des échanges, on se dit mais on est sur la même longueur d'onde, on habite à des milliers de kilomètres les uns les autres, on n'est pas du même continent, mais on a des choses communes à échanger et on a à donner et on a à recevoir.
D'accord, donc pour rappeler, il y aura deux temps importants, donc
le samedi 9 mars.
9 mars, oui.
Alors, c'est donc, il y a plusieurs lieux dans le département, donc à la maison diocésaine à Montpellier, mais aussi à Béziers, à Jacou, et puis à Nébian. Et puis le 19 mars, ça sera à Montpellier, une conférence justement qui traitera plutôt des problèmes que nous avons évoqués avec des associations alliées, donc type éthique sur l'étiquette, justement où on verra l'immense responsabilité peut-être des entreprises et face à des gens un petit peu démunis. Hein.
D'accord. Donc tout ça, si on veut retrouver ces informations et puis si on veut faire un don, va où?
Ah bah le, je pense que s'il suffit de taper CCFD Terre Solidaire, voilà, et l'essentiel des dons maintenant
va être donné là.
Et puis par la MTMSI, on mettra en ligne accessible les soirées, etc.
Les soirées, d'accord, où chacun pourra assister. Donc, écoutez, j'espère que ça aura, moi en tout cas personnellement, ça m'a vraiment rassuré, puis surtout étonné de savoir que depuis 60 ans, il y a cette éthique-là, d'être en partenariat et de ne pas être en aide, en soutien. Merci beaucoup, José. Hein, et puis,
c'est avec plaisir.
Voilà, longue vie encore, comme on dit en
Afrique. Donner l'occasion de parler de tout ça.
Longue vie au CCFD Terres Solidaires encore. Et donc, deux petites infos avant de vous quitter. Le 27 demain, donc, il y a une conférence de presse au Gazette Café à 11h. Dans le cadre des rencontres francophones du logiciel libre. Et donc, c'est une conférence qui est donnée par Myriam Criquet et Pascal Arnoux. Myriam est venue très dernièrement parler de ça ici, sur cette antenne. Voilà. Et puis le 28, donc après-demain, dans l'émission de Jean-François Martinez, si l'on parlait, de 13h à 14h, Jean-François reçoit Hélène Mandroux, qui fut la maire de Saint-Gély depuis très longtemps. Voilà, au revoir chers auditeurs, et puis à très bientôt, la semaine prochaine, pour ne pas dire rendez-vous.